Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal, présenté par Yevin Bwinga.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, chemin de croix pour les Quinois qui ont marché à pied ce lundi dans la capitale. À la base, la grève des transporteurs en commun, les conducteurs des bus et taxis protestaient contre la grille tarifaire récemment publiée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Et puis plus de 10 000 ménages de déplacés broient du noir au centre de Pinga et dans quelques contrées du Nord Kivu. Leurs conditions de vie sont très difficiles. Vous suivrez le cri d'alarme du modérateur de cadre interpaysan pour la transformation des conflits. Enfin, le secrétaire général aux infrastructures et travaux publics est notre invité. Georges Cauchy va nous donner les conclusions de sa visite d'inspection sur les routes périphériques qui ceinturent Kinshasa de l'ouest et est. Restez scotchés et vous serez édifiés. Encore une fois, bonsoir. Nous commençons ce journal par ces perturbations observées dans les transports en commun ce matin ici à Kinshasa. Conséquence, les Quinois ont encore parcouru des chemins de croix. Des marches à pied forcées sont observées dans les artères de la capitale et d'autres Quinois ont dû traîner pendant longtemps aux arrêts de bus. À l'origine de ce calvaire, les conducteurs des bus et taxis qui protestent contre la grille tarifaire récemment publiée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Suivez le reportage de Babel Mpongo Simango, rendu par Blaise Shindani.
D'abord, très timide le matin, les taxis-taxi-bus ont fait leur retour sur la chaussée vers la fin de la matinée sur plusieurs artères. Mais ils ne sont pas aussi nombreux que d'habitude. Il y a foule aux arrêts, c'est le cas à Kintambo Magasin. La plupart des taxis-bus font les sectionnements des tronçons ou demi-terrains. Ceux qui le peuvent les prennent. Ceux qui n'ont pas prévu de moyens supplémentaires continuent d'attendre aux arrêts. Témoignage.
Je vais avec ça. C'est une demi-terrain, mais on n'a pas le choix. Il faut toujours monter parce qu'il n'y a pas de transport.
Vous payez combien comme ça?
1500.
Je pars jusqu'au Grand Marché Zambo.
Vous avez traîné?
Oui, jusque-là, il n'y a pas de transport.
Ce qui arrive, c'est quoi?
Demi-terrain, 24.
Les conducteurs disent ne pas se retrouver avec les prix fixés dans la nouvelle grille.
Nous sommes mécontents qu'ils mettent les bus Transco sur terrain s'ils veulent un prix très bas. Notre souhait est aussi de voir le tarif baisser, mais en les faisant, qu'ils tiennent aussi compte de la situation sur les routes. Fixer la course de pompage à Zando à 1500 francs congolais, alors que la venue du tourisme nous prend 2 heures du temps, ce n'est pas normal.
Pendant ces temps, à Kitambo Magasin par exemple, une centaine de motos stationnent en quête de clients.
La décision du président de la République d'améliorer le pouvoir d'achat des Congolais est bel et bien en marche. Propos du porte-parole du gouvernement qui a rappelé ce deuxième engagement de Félix Tshisekedi dans une interview exclusive accordée à Radio Kapi ce lundi 13 janvier 2025. Ce n'est pas tout. Il a aussi indiqué que le gouvernement de la République étudie la possibilité d'étendre la gratuité de l'enseignement au niveau du secondaire. Tout de suite, le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, est au micro de Blaise Shindani Kambala.
Au plan socio-économique, je peux parler encore de la consolidation de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, le gouvernement étudie la possibilité de l'étendre au niveau secondaire. Au plan socio-économique, nous avions pris l'engagement d'améliorer le pouvoir d'achat du Congolais. C'était le deuxième engagement pris par le président de la République. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez depuis que Mme Soumino est à la tête du gouvernement, vous allez voir que le taux d'échange ou les signes, les cadres macroéconomiques est plutôt stable. C'est une stratégie de préservation, mais que dans un autre volet, vous avez vu la baisse de prix du carburant, la baisse de prix de denrées de première nécessité. C'est qui pour nous, en réalité, c'est des objectifs que nous avons atteints, mais nous ne nous satisfaisons pas de ça parce que nous devons faire davantage, notamment en accroissant la production locale et en permettant aux Congolais d'avoir aujourd'hui la possibilité, avec leurs revenus, de vivre décemment. Et ça, c'est les efforts que nous continuons de faire.
Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Attention danger, le pont Foutumo sur la rivière du même nom en province du Sankuru menace de s'effondrer. Cet ouvrage sur la nationale numéro 7 qui relie les cités de Lodja et Benadibele s'est incliné il y a une semaine. C'était lors de l'opération de remplacement de l'ancien pont Balé qui s'était effondré depuis octobre dernier suite à sa vétusté. D'après le directeur provincial de l'office de route, les soudures qui relient les deux ponts lors du remplacement finalement se sont détachés et ont causé une inclinaison. Serge Mukamba, directeur provincial de l'Office de route, explique. Il est joint par Esther Ndalafina.
Il y avait les ponts neufs, les ponts matières et puis les ponts anciens, ponts Belay. Il fallait faire sortir Belay pour remplacer les ponts matières. L'injonction-là qui a relié entre les ponts matières et ponts Belay, c'est ça qui nous a fait des défauts. Avec le portrait de la rivière, 45 mètres 75, nous sommes bien partis vraiment. Mais comme il y avait un ancien pont, les éléments étaient déjà fatigué, et on partait lentement, avec l'écartement de la rivière, ça a quand même fait fatiguer la jonction. On était presque arrivé à 6 mètres parce que c'était des tronçons qui restaient, et là où on a connu de l'autre côté là, un petit inclinaison. Nous avons tenté vraiment de redresser les petites inclinaisons là, on a encore renforcé pour terminer à le 1er janvier, on a quand même essayé de pousser, et l'autre côté qui était resté, ça a encore donné encore une grande inclinaison. Nous sommes arrêtés à ce niveau-là. Maintenant, on est en train de chercher un peu de moyens pour regrouper des matériels et pour faire sortir ça.
Autre titre de l'actualité, plus de 10 000 ménages de déplacés en situation très difficile vivent au centre de Pinga et dans les groupements voisins de Iana et Loubérique. Nous sommes là au Nord Kivu. Le SOS est lancé par le modérateur du cadre interpaysan pour la transformation des conflits dans cette contrée du Nord Kivu. Pour Julien Mushumba Bunda, il s'agit des personnes qui avaient fui l'avancée des rebelles du M23 vers Pinga depuis fin octobre 2024. Il appelle ainsi à une intervention pour répondre aux besoins urgents de ces personnes sur le plan sanitaire et alimentaire. Écoutons plutôt Julien Mushumba Bunda. Il est joint ici par Bernardin Nyangi.
À Pinga Centre, plus ou moins 5 000 ménages sont les familles d'accueil venues du côté de Bouleoussa, d'Empeti, Kalembe, Katobo, Malemo, Mijenje et Hula. D'autre part, à partir du mois de novembre 2024, au moins 70% des ménages se sont orientés dans le groupement Ihana et dans le groupement Loubérique, dans la zone de santé de Kibua. Et dans les 8 heures de santé où ces déplacés sont localisés. De Misau, Kimba, Robe, Limangi, Kibua, ces déplacés se trouvent dans une situation désastreuse. C'est ainsi que nous lançons ces cris d'alarme auprès de toutes les autorités, notamment les humanitaires, pour venir en aide à ces déplacés. Les besoins sont en termes de soins de santé primaires, les besoins en vivres, des caches, des NFI ou des abris provisoires.
Rappelons que des affrontements violents avaient opposé l'armée congolaise aux rebelles du M23 durant tout le mois de novembre 2024 sur l'axe Kalembe-Pinga, provoquant des déplacements massifs des populations. Actuellement, l'axe Kalembe jusqu'à Peti, à environ 10 km de Pinga, reste sous occupation des rebelles, affirment nos sources. Mais sur le terrain de guerre, la situation est restée tendue ce lundi autour de l'agglomération de Ngungu au Nord Kivu, où des violents combats ont opposé toute la journée les rebelles du M23 au FRDC et combattants Wazalendo. Selon certaines sources sécuritaires dans la région, depuis 8 heures, heure locale, un échange de tirs d'armes lourdes et légères a été signalé dans le village Mufunzi, près de Ngungu. Une attaque aérienne de la colline Mouré-Mouré, surplombant la zone, a aussi été rapportée. Selon toujours nos sources, l'armée et les Wazalendo poursuivent une offensive pour déloger les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et qui tenterait de se réorganiser autour de Ngungu. Pendant ce temps, un calme précaire est signalé ce lundi autour de Kibumba et Sake, théâtre des affrontements hier dimanche 12 janvier. Pour sa part, le chef du village de Bapakombe, Bakondo, dans le territoire de Beni, lui plaide pour le renforcement des mesures sécuritaires dans le Mayangose, grenier de la ville et du territoire de Beni. Sa position intervient au lendemain d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF qui a coûté la vie à 3 personnes. Le Mwami Achu Taibo indique que la résurgence de l'insécurité dans les villages de Mabambila, Kipeyayo, Mayangose et tous les blocs agricoles de cette entité coutumière risquent d'impacter négativement l'alimentation de la population dans la région. L'autorité coutumière explique au micro de Marc Marofimbo.
Ce que je veux dire à la population est d'être d'abord calme, d'être vigilante. Nous devons appuyer les FRDC afin que cet ennemi soit bouté dehors de notre entité. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a des opérations presque partout. Et avec ces opérations, il y a une diminution d'effectifs dans le cadre opérationnel. Voilà pourquoi l'ennemi veut se concentrer maintenant au centre. Et la seule chose que nous demandons et que nous ne cessons de demander est de renforcer les opérations dans la zone de Mayangose, qui est le grenier de la ville de Beni. Nous tous, nous sommes déjà témoins. Depuis le 2 janvier jusqu'à aujourd'hui, il y a la hausse des prix de d'arrêt alimentaire. C'est-à-dire, une fois que l'ennemi s'éternise encore dans cette zone, nous risquons d'entrer dans beaucoup de situations dans les centres-villes de Beni. Donc, nous demandons aux autorités politico-administratives, nous demandons aux autorités militaires de tout faire à ce que cette zone de Mayango se soit mieux sécurisée, afin que la ville aussi soit sécurisée de tous côtés.
De leur côté, les chefs coutumiers notables des entités Bira dans la province de l'Ituri, eux, ont pris l'initiative d'accompagner le processus de paix pour le développement socio-économique de leurs entités. C'était samedi à Iroum Centre, à l'issue d'une rencontre entre les leaders communautaires et les responsables des factions de la milice Force patriotique et intégrationniste du Congo FPIC. Au cours des échanges, les notables ont encouragé les jeunes qui détiennent encore les armes à quitter la brousse pour rejoindre leur communauté ou la réserve armée pour la défense est rade et défendre la République. On écoute le député national Robert Bungisha Bakukato dans ce propos recueilli par Ezekiel Muzalia.
Nous avons rencontré les chefs des cinq chefferies et groupements Bira pour parler de la situation sécuritaire dans notre milieu. Jusque-là, il y a des avancées significatives, bien qu'il y ait encore des choses à améliorer pour que la paix totale puisse revenir et que nous ne puissions plus rentrer en arrière. Nous avons résolu de réunir tous les jeunes parce que le gouvernement a initié un bon programme de la RAD. Nous voulons que les jeunes qui ont pris les armes partent servir dans ce programme pour défendre efficacement le pays. Et ceux-là qui désirent quitter la brousse, qu'ils reviennent dans la communauté pour travailler. Nous remercions l'administrateur du territoire qui vient de nous autoriser en plus de circuler dans d'autres localités pour sensibiliser les jeunes. Et nous, de notre part, nous allons maintenant réunir tous les responsables des jeunes et voir comment les choses vont s'améliorer encore davantage.
Et puis ceci concerne les populations du Congo central. L'escalier principal qui donne l'accès à la plage publique de la cité de Mwanda est désormais fermé, hélas. En tout cas, jusqu'à ce qu'il soit réhabilité. Ceci est l'une des décisions prises le week-end par le ministre national du Tourisme, Didier Mpambia, en concertation avec les autorités locales. Ces mesures consécutives aux problèmes d'infrastructure et au décès d'un jeune homme de 17 ans sur la plage de l'hôtel Bellevue le 2 janvier dernier vise à assurer la sécurité et la réhabilitation des plages à Mwanda. C'est le ministre provincial du Tourisme du Congo central qui a livré l'information ce lundi à Radio Okapi. Suivez les explications de Jean-Cornelis Mbilou dans ses propos recueillis par Nana Pluriche Mambo.
Dernièrement, il y a eu un accident au niveau de la plage. Il y a eu une noyade d'un jeune garçon, ce qui n'a pas enchanté la population. En outre, la plage est fréquentée par cette population avec comme passage un escalier qui, il y a quelques années, a provoqué tant de morts. Et pour que cela ne revienne plus, nous avons jugé bon d'effectuer une descente sur terrain qui nous a poussé à prendre une série de mesures. Des mesures qui ont été prises à deux niveaux. D'abord pour la plage publique gérée par l'ICSN. Nous avons d'abord la fermeture de l'escalier principal jusqu'à sa réhabilitation. Là, c'est un. Alors pour la plage de l'hôtel Bellevue, premièrement, l'entrée vers Bellevue est ouverte au public. Deuxièmement, une équipe d'inspection sera mise en place pour superviser la construction d'un mirador destiné à faciliter la surveillance des activités par les maîtres nageurs. Troisièmement, l'obligation de placer des drapeaux de signalisation pour indiquer les niveaux de profondeur d'eau. Quatrièmement, le renforcement des équipes de maîtres nageurs pour assurer la sécurité des usagers. Et nous avons souligné que ces mesures sont de stricte application et qu'aucun compromis ne sera toléré.
Actualité internationale.
Un homme d'affaires iranien arrêté le mois dernier en Italie à la demande des États-Unis a été libéré et a regagné l'Iran après l'annulation de son arrestation par le ministère italien de la Justice. Le cyclone Dikeledi a traversé Madagascar quelques heures dans la nuit de samedi à dimanche, causant 3 morts et près de 1000 sinistrés dans le nord du pays. Quasiment chaque année, la grande île est touchée par des catastrophes naturelles dévastatrices. Les autorités étaient à pied d'œuvre depuis 3 mois pour anticiper les dégâts.
L'invité.
Le secrétaire général aux infrastructures et travaux publics salue l'évolution du processus d'expropriation des populations riveraines des rocades à Kinshasa. En tête de la commission d'expropriation du gouvernement, Georges Kochi exprime sa satisfaction à l'issue d'une visite d'inspection sur ces routes périphériques qui ceinturent la ville de l'Ouest et Est. Il assure que toutes les personnes impactées par ce projet auront bel et bien leur indemnisation. Georges Kochi s'entretient ici avec Blaise Ndongala, Mayanda suivez.
Bonjour Monsieur Georges Kochi.
Bonjour Monsieur le journaliste.
En quoi a consisté la descente sur terrain ces samedi 11 janvier de la commission d'expropriation des personnes qui seront impactées par les projets rocards?
La descente de ce jour a consisté notamment à ce qu'on puisse vérifier, faire les suivis de tous les travaux qui se font sur le terrain, ainsi que de discuter avec les personnes impactées qui, jusqu'à présent, ne sont pas encore invitées à nos bureaux afin que nous puissions entamer des discussions de manière à leur remboursement.
Après la ronde, monsieur le secrétaire général, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire?
De ce qui ressort de notre, comment dirais-je, de notre descente sur le terrain, il ressort que beaucoup, n'est-ce pas, de nos compatriotes ne comprennent pas qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas encore payés, et surtout les personnes impactées. Il y a beaucoup aussi qui ne savent pas encore le problème qu'il y a tout autour de la construction de ces routes. Et aussi les personnes impactées qui ne comprennent pas les retards pris par le gouvernement pour le remboursement, étant donné qu'ils sont déjà expropriés. Donc c'était pour mettre le point sur les i, pour les uns et les autres. Pour les journalistes, c'est qu'ils vivent des visus, ce qui est fait, qu'ils entendent ce que disent la population, qu'ils écoutent aussi les présidents du comité des associations que je suis, les réponses données à toutes ces personnes impactées et les assurances, qui ne sont pas les assurances en l'air, qui sont des assurances sûres, que ces personnes seront invitées, qu'on va discuter et qu'ils seront payés.
Pouvons avoir l'idée sur la date?
Nous le faisons déjà sur la première partie. Nous avons déjà envoyé les demandes pour leur paiement sur la première partie, c'est-à-dire que rocade sud-ouest. Déjà, nous avons envoyé la première partie pour leur paiement. Mais à partir de la semaine prochaine, nous continuons avec la deuxième série. Parce que chaque personne qui vient nous prend à peu près 30 minutes. Donc, vous savez, nous avons un peu plus de 1000 personnes impactées. Donc, tout le temps que ça prend pour négocier. Et ensuite, nous avons un deuxième problème. Il y a des personnes qui n'ont pas encore des titres. Et pour avoir des titres, il faut que nous envoyions les documents au ministère des Affaires foncières. Il n'y a que le ministère des Affaires foncières qui leur confère les titres de propriété. Donc, c'est ça aussi le problème qui tarde un peu, les expropriations.
Quelles sont les conditions à remplir pour que ces personnes qui seront impactées puissent bénéficier de ces fonds d'expropriation?
Il n'y a pas d'autres conditions. Il faut avoir les titres de propriété. Ça, c'est un. Vous êtes propriétaire, vous avez les titres. Et ensuite, on fait les mesurages sur votre parcelle qui sera impactée par les autres. On calcule, parce qu'il y a un arrêté qui définit le coût par mètre carré de terrain. On calcule et on ajoute, n'est-ce pas, ce que nous appelons une valeur ajoutée. Si jamais il y avait des arbres fruitiers, s'il y avait un champ de manioc, de maïs ou d'haricots, et ou s'il y avait des constructions. Tout ça, on évalue. Après avoir fait la sommation de tous ces calculs, on trouve la valeur, n'est-ce pas, pour le paiement par rapport à l'expropriation.
Si ce n'est pas un secret, c'est combien par mètre carré?
Je crois que c'est autour de 19-20 $.
Certains estiment qu'il faut éviter de détruire plusieurs maisons pour minimiser les coûts d'indemnisation. Qu'en dites-vous?
Mais c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que c'est les tracés qui nous déterminent normalement les expropriations. C'est-à-dire nous évitons le plus possible là où il y a de grandes constructions, donc des constructions denses. Dans les cas de force majeure, nous sommes obligés de casser. Mais nous évitons le plus que possible de détruire le plus de maisons possible. Parce que ça a un coût. Et ce coût-là se répercute sur le coût du kilomètre de la construction de la route.
Et quelles sont les différentes phases, monsieur le secrétaire général, pour aboutir à l'indemnisation?
Il y a d'abord la phase d'identification. On identifie les personnes qui seront impactées. On signe un procès verbal, le constat ensemble avec eux, après mesurage sur la partie du terrain qui seront impactées. Et après, la commission travaille là-dessus et demande aussi les titres de propriété. Pour ceux qui ont le titre de propriété, on entame les discussions. Pour ceux qui n'en ont pas, nous envoyons les documents au ministère des Affaires foncières pour qu'on leur octroie les titres de propriété, moyennant paiement.
Monsieur le secrétaire général, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, ainsi se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Alain Irung, à Richard Junior Kamunga et à Jean-Claude Siala.